Radio Prague, les informations.
La fin de l'immunité à vie pour les membres du Parlement pourrait bien être inscrite dans la Constitution et entrer en vigueur au début de l'année 2013. Les étudiants et le recteur de l'Université Charles appellent à protester contre les réformes du ministère de l'Éducation. La formation de glace est attendue dans de nombreuses parties de la Bohême et de la Moravie. Durant les prochains jours, les autorités conseillent aux automobilistes la plus grande vigilance. Les membres du Parlement tchèque et les juges de la Cour constitutionnelle pourraient bien perdre leur immunité à vie. Le Conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale a en effet recommandé de limiter à la mandature l'immunité des membres des deux institutions. Cette proposition de modification constitutionnelle est en cours de préparation et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2013. La préparation de la réforme est en cours actuellement et la signature des présidents de tous les partis présents au Parlement est en outre nécessaire à son adoption. Réforme toujours, mais de l'éducation supérieure cette fois, les membres de la direction des conseils académiques et les présidents des associations d'étudiants se sont mis d'accord lors d'une conférence qui s'est tenue ce jeudi à Prague pour protester contre les réformes proposées par le ministère de l'Éducation. La réunion a été convoquée par le recteur de l'Université Charles, Václav Hampel, et a rassemblé près de 800 personnes sur le parvis de la faculté de droit afin de discuter des modes de protestation. Selon les sources anonymes de la radio nationale tchèque, les manifestations devraient commencer lundi 27 février et durer une semaine. Pour les organisateurs de la protestation, les réformes proposées par le ministère conduiraient à la liquidation de l'autonomie des universités et à l'endettement massif des étudiants. Météo, la formation de glace est attendue dans de nombreuses parties de la Bohême et de la Moravie durant les prochains jours. De la glace devrait en effet se former en de nombreux endroits du territoire en raison de l'arrivée sur la République tchèque d'un manteau d'air froid et humide. C'est ce qu'a annoncé l'Institut tchèque d'hydrométéorologie et la présence de ce courant d'air froid se fera sentir à partir de vendredi jusqu'à samedi en fin de journée. Les autorités conseillent donc la prudence sur les routes où la circulation sera considérablement ralentie. Les mêmes conseils sont adressés aux piétons à qui il est recommandé la plus grande vigilance. Le nombre d'enfants diabétiques en République tchèque a triplé en 20 ans. Le diabète est devenu l'une des maladies chroniques les plus courantes de l'enfance, puisqu'un enfant sur 5 en souffre. La nouveauté, c'est que cette maladie se déclare chez des sujets de plus en plus jeunes. Selon l'un des responsables du département de pédiatrie de l'université de Motol, le nombre d'enfants de moins de 4 ans atteints de cette maladie a quadruplé ces dernières années. Aucune étude n'a pourtant à ce jour permis de comprendre les causes de ce phénomène. L'augmentation de la soif, de la transpiration, de la fatigue et de l'amincissement sont parmi les signes les plus répandus permettant de diagnostiquer la présence d'un taux anormal du glucose dans le sang. Quelques mots de sport. L'équipe de handball de République tchèque rencontrera ce soir la Macédoine au championnat d'Europe qui se tient en Serbie. Après avoir perdu contre les Suédois cette semaine, les joueurs tchèques sont avec 2 points au compteur, les seconds de leur groupe. La victoire ou un match nul face aux Macédoniens signifierait leur qualification au tour suivant. Météo enfin, c'est un temps très nuageux qui est attendu demain vendredi 20 janvier, fête des Ilona. De la neige devrait tomber sur l'ensemble du territoire et les températures en baisse par rapport à celles d'aujourd'hui seront comprises pour les maximales entre moins 1 et 2 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Paul pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord de la politique. Le gouvernement souhaite en effet organiser un référendum relatif à l'intégration de la République tchèque à la zone euro, ainsi qu'au rattachement ou non au pacte budgétaire européen, un traité qui doit, rappelons-le, permettre aux pays de la zone euro de sortir de la crise de la dette. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants. Les Big Brother Awards sont des prix décernés chaque année à des instances publiques ou des entreprises privées qui représentent une menace pour la vie privée et la protection des libertés individuelles. Mercredi, une cérémonie à Prague a désigné les lauréats de l'année 2011 en République tchèque. Et puis dans la seconde partie de notre programme, place sera faite à la rubrique « Tchèque célèbre et moins célèbre ». Cette semaine, portrait de l'une des plus célèbres cinéastes tchèques, Elena Třeštíková. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. On commence donc avec de la politique. Le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur la position que la République tchèque adoptera concernant le pacte budgétaire européen. Alors la République tchèque signera-t-elle ou ne signera-t-elle pas le nouveau traité européen qui doit aider la zone euro à sortir de la crise de la dette ? Un peu plus d'un mois après le sommet, la question reste posée. En attendant, la tendance semble être à l'organisation d'un référendum. Malgré l'opposition du parti pro-européen Top 09, une des trois formations de la coalition, le Premier ministre Petr Nečas a confirmé mercredi qu'il souhaitait que le rattachement de la République tchèque dépende de la volonté de la population. Le chef du gouvernement entend toutefois à ce que la question relative au pacte budgétaire soit posée indirectement, et ce, lors d'un référendum qui serait organisé pour déterminer si la République tchèque doit intégrer ou non la zone euro. On écoute Petr Nečas.
Nous sommes convaincus que voter uniquement sur ce pacte n'a pas de sens et que l'intégrer à un référendum concernant la monnaie européenne serait plus clair. La question posée aux Tchèques serait très simple. À l'avenir, êtes-vous pour ou contre l'adoption de l'euro? La campagne d'information précédant la tenue du référendum expliquerait alors, entre autres, qu'intégrer la zone euro signifierait également signer toute une série d'accords intergouvernementaux ou internationaux.
À la différence des pays de la zone euro, la République tchèque peut se permettre de rejoindre le traité quand elle le souhaite. Aucune date n'a donc été pour l'heure évoquée concernant la tenue de cet éventuel référendum, mais son organisation pourrait aussi dépendre de l'entente au sein du gouvernement, le partenaire de coalition pro-européen Top 09 n'y étant pas favorable. Le vice-président de Top 09 et ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a justifié la position de son parti.
Nous sommes d'abord persuadés que nous ne sommes pas tenus à rien par l'accord de coalition passé avec les deux autres partis du gouvernement. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. La deuxième raison est la continuité de la politique étrangère de la République tchèque. Dans un passé récent, la République tchèque a adopté le traité de Lisbonne et les dirigeants politiques de l'époque avaient alors refusé d'organiser un référendum. Enfin, la troisième raison est la position qui est semblable à celle de Monsieur le Président de la République. Nous pensons que ce pacte est un dossier tellement complexe qu'il n'est pas possible de formuler une question simple, claire et univoque.
Top 09 n'est pas la seule formation politique contre la tenue d'un référendum. Le Parti social-démocrate, principale force de l'opposition, estime que l'organisation d'un référendum serait une manière pour le gouvernement de se défausser de ses responsabilités, comme le reproche Lubomír Zaorálek, vice-président de la social-démocratie.
Organiser un référendum est un alibi pour les membres du gouvernement qui ne veulent pas prendre de décision. Dans le cas de Petr Nečas, il est également évident qu'il a peur d'entrer en conflit avec le président Klaus. Pour moi, il s'agit donc d'un abus de l'instrument qu'est le référendum. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'adoption d'une loi cadre dans laquelle les règles pour organiser un référendum seraient clairement définies et souhaitons donner la possibilité aux Tchèques de décider si cela les intéresse ou pas.
Ouvertement opposé au projet d'union budgétaire et farouche opposant à l'euro, le président de la République, Václav Klaus, a lui déjà fait savoir qu'il ne signerait en aucun cas le pacte fiscal. Une position dont beaucoup pensent qu'elle influence les décisions également du Premier ministre, Petr Nečas, proche du chef de l'État. Et puis, comme annoncé en titre, les Big Brother Awards sont des prix décernés chaque année à des instances publiques ou à des entreprises privées qui représentent une menace pour la vie privée et la protection des libertés individuelles. Mercredi, une cérémonie au théâtre Archa à Prague a désigné les vainqueurs de l'année 2011 en République tchèque. Plus de détails avec Anna Kubista.
Cette année, les Big Brother Awards ont distingué notamment le ministère de la Santé, épinglé pour le traitement des données personnelles des patients dans les dossiers médicaux. Autre institution montrée du doigt, le Bureau des statistiques tchèque, pour sa grande opération recensement 2011, accompagnée de nombreuses zones d'ombre sur le traitement des données qui inquiètent les défenseurs des libertés individuelles. Enfin, troisième larron de cette équipée, l'entreprise des transports publics pragois, qui tous les jours observe, grâce à un système de caméras surveillance perfectionné, le million et quelques de passagers qui les empruntent. Katarzyna Hladka, porte-parole de l'association Juridicum Remedium, qui organise les Big Brother Awards en République tchèque.
Les gens ont le droit de voyager de manière anonyme. Il n'y a aucune raison de suivre un individu et d'enregistrer quand il prend les transports et quel est son trajet.
Les caméras sont pour des raisons évidentes l'incarnation de ce que signifie la violation des libertés individuelles et de la vie privée. Dans le livre de George Orwell, 1984, chaque citoyen est surveillé par le dictateur Big Brother. Les prix éponymes visent à tirer la sonnette d'alarme quand la surveillance n'est plus dans l'intérêt des citoyens et de leur sécurité, mais peut au contraire devenir elle-même une menace. Et en effet, les forces de police justifient la présence de caméras comme une prévention contre le crime. Pavla Kopecka, porte-parole de la police tchèque.
Ils aident à élucider certains crimes sur des personnes ou sur des biens. Elles sont une aide dans les cas de meurtre ou de violence.
Sauf que pour l'Institut de protection des données personnelles, il n'est pas clair du tout dans quelle mesure leur présence est véritablement effective. Et surtout, celui-ci craint leur multiplication incontrôlée et injustifiée. Anna Stepankova de l'Institut de protection des données personnelles.
On ne parle que d'un seul segment où l'on utilise les caméras, c'est-à-dire la police. Mais les caméras dont les prix sont les plus en bas sont utilisées dans bien d'autres endroits et sont par exemple installées dans les écoles ou dans les piscines. Donc la protection des biens est soumise à la même juridiction que la protection de la vie privée. Seulement, il faut que ces règles soient établies et celles qui existent sont partielles.
Pour ce faire, l'Institut de protection des données personnelles appelle sans relâche à une plus grande régulation afin d'éviter un flicage des citoyens tous azimuts. D'après l'Institut, ceux-ci devraient au minimum être mis au courant du fait qu'ils sont filmés. Les Big Brother Awards ont été lancés en 1998 en Grande-Bretagne et aujourd'hui, près d'une vingtaine de pays à travers le monde remet chaque année ses anti-prix aux institutions irrespectueuses des libertés et droits fondamentaux.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également, vous le savez, de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée, comme tous les 15 jours, à la rubrique Tchèque célèbre et moins célèbre. La banalité du quotidien est une chose extraordinaire, déclarée dans une récente émission culturelle de Radio Prague, la réalisatrice française Anne Vilakek. Ces mots pourraient être ceux aussi de la cinéaste tchèque Helena Třeštíková, à qui nous consacrons la seconde partie donc de notre émission. Auteure de plus de 50 documentaires, Helena Třeštíková, 62 ans, a sa spécialité, celle de suivre ses personnages sur une longue période, et même très longue période, souvent pendant plusieurs dizaines d'années. C'est aussi le cas de la famille Kettner, une famille tchèque ordinaire que la réalisatrice connaît intimement et dont elle a filmé la vie de 1974 à 2011. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, Magdalena Rozinková vous propose de découvrir ce documentaire intitulé « Sokromi Vesmír », en français le cosmos privé, ainsi que la méthode de travail d'Helena Třeštíková, une des meilleures documentaristes tchèques contemporaines.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Ce qui est sans doute le plus difficile, mais aussi le plus intéressant dans le travail du cinéaste, c'est de créer l'image de ce quotidien que nous connaissons sous telle ou telle forme, nous tous.
dit la réalisatrice Helena Treštíková. Dans ses précédents documentaires, très remarqués par le public et la critique dans son pays comme à l'étranger, la documentariste a dépeint des destins compliqués, dramatiques, voire tragiques, des personnes en marge de la société. De Katka, une toxicomane que pas même la maternité ne sauve de l'enfer de la drogue. De Marcela, une mère divorcée en difficulté matérielle qui perd sa fille dans un accident. Ou encore de René, un délinquant suivi par la réalisatrice pendant 20 ans, en prison et hors univers carcéral. A noter que ce dernier film a valu à Helena Treštíková le prix Arte du meilleur documentaire en 2008. En ce début d'année, la réalisatrice revient avec un nouvel opus qui sort en salle le 26 janvier prochain et qui s'intitule Soukromý vesmír, le cosmos privé. Il s'agit là, pour changer, d'une chronique de la vie d'une famille ordinaire, unie et heureuse. Tournée sur une période de 37 ans, avec des personnes qu'elle connaît intimement, Soukromý vesmír a pourtant été, comme l'avoue la réalisatrice, le plus difficile de ses projets, et ceci notamment du fait des difficultés de montage du matériel énorme, tourné avec des équipes différentes et sur des supports et formats différents. Née en 1949 dans une famille pragoise instruite et cultivée, Helena Treštíková a été attirée par les arts plastiques, le théâtre et le cinéma. L'histoire du film Le Cosmos Privé remonte à 1974 où Helena Treštíková venait de terminer ses études à l'école supérieure de cinéma de Prague, la FAMU. Dans son premier court-métrage, qui avait pour thème la maternité et la manière dont la naissance d'un enfant transforme la vie d'une femme, Helena Treštíková filme son amie d'enfance, Jana, une jeune sociologue pragoise. Avec sa caméra, Helena Treštíková suit l'accouchement du premier enfant de Jana, instant que la réalisatrice qualifiera selon ses mots comme l'expérience cruciale de sa vie de femme et de cinéaste. Et c'est selon elle cette expérience-là qui lui a donné l'envie de continuer de filmer cette famille, Helena Treštíková.
Comme la naissance de ce petit garçon Honza a motivé la poursuite du tournage, c'est donc lui qui s'est imposé comme le personnage central de ce futur film. J'avais le sentiment très fort que le film devait être sur lui, qu'on devait le voir grandir, voir s'il allait être heureux dans ce monde et ce qu'il allait faire de sa vie.
De 1974 à 2011, Helena Treštíková a donc filmé la vie de la famille Kettner. Durant des années de tournage sur d'autres films, elle s'est occupée de ses propres enfants qui, lorsqu'ils sont devenus adultes, ont également collaboré à la préparation de ce documentaire. En montant le film, la réalisatrice s'est appuyée sur les journaux intimes du père Petr Kettner, où celui-ci documentait tout au long de ses 40 ans, avec simplicité et humour, le quotidien de sa famille, opposée à l'idéologie communiste mais non engagée, et qui traverse avec son pays tous les soubresauts de la fin du XXe siècle. Le film propose de suivre avec les Kettner les naissances successives de Honza, de ses sœurs Anna et Eva, et de les voir grandir dans une maison familiale près de Liberec, où la famille emménage à la suite de son départ de Prague. La répétition délibérée de certains événements, à savoir les rentrées scolaires, les célébrations des anniversaires de Honza, des Saint-Sylvestre, les vœux du Nouvel An des présidents Gustav Husák, Václav Havel et Václav Klaus, rythme le film. Mais elle joue aussi un autre rôle, comme l'explique Helena Treštíková.
Pour moi, c'est un film qui a plusieurs thèmes.
Dans ce film, j'ai abordé plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est la question de savoir à quel point nous nous identifions avec le milieu, l'univers dans lequel nous sommes nés. Ensuite, j'ai essayé de montrer dans le film deux lignes importantes dans nos vies. La première ligne horizontale, ce sont les certitudes, les constantes. La seconde ligne verticale incarne les incertitudes, les transformations. Ces deux lignes sont représentées dans le film par des images d'archives.
Nebudete létat na dovolenou místo k moři třeba na měsíc nebo na některou jinou planetu?
Effectivement, le quotidien familial des Kettner, Helena Treštíková le replace dans le contexte historique en utilisant abondamment des images de la télévision d'avant et d'après la chute du communisme, images consacrées notamment à deux sujets fétiches des médias, à savoir la carrière du chanteur populaire Karel Gott et la conquête spatiale. Yeah. Et si, malgré toutes les difficultés de la vie dans la Tchécoslovaquie socialiste, malgré tous les malaises de la République tchèque démocratique et tous les problèmes qu'il aura fallu surmonter dans la vie privée, Jana et Petr Kettner estiment être heureux au monde, leur fils Hanza, lui, a mis beaucoup de temps à trouver son équilibre.
Mě vlastně nic nezakazovali rodiče, nikdy moc. A teď já jsem mohl všechno, já jsem se mohl zkazit. Protože já nevím, budu se snažit, aby tenhle jejich risk dopadl dobře, abych jim nedělal ostudu, nebo aby se za mě nemuseli stydět.
A proto říkáme, dejte šanci míru.
Dans le film, nous traversons avec les parents l'adolescence tumultueuse de leur aîné qui correspond aux premières années post-révolutionnaires du pays. Hanza sympathise avec le mouvement anarchiste, abandonne ses études, expérimente les drogues. Dans les années 90, il voyage dans le monde entier, ses retours à Liberec sont très rares et Helena Třeštíková hésite à poursuivre le tournage. Finalement, c'est le fils de la réalisatrice et caméraman Tomáš qui retrouve Hanza alors installé au Pays Basque et continue à le filmer. Hanza semble trouver sa place dans la vie aux côtés d'Edurne, sa compagne espagnole. Fumeur assidu de cannabis qui représente pour lui son indépendance face à la société de consommation, Hanza est finalement confronté aux excès de l'adolescence du fils d'Edurne qui ne sont pas sans rappeler sa propre jeunesse. Comment Helena Třeštíková est-elle arrivée à la réalisation de projets de longue haleine? Elle se souvient.
Au début, je ressentais le besoin instinctif de saisir le temps. Cet aspect était présent même dans mes films d'études. Par exemple, à La Famou, j'ai tourné un film sur un village qui avait été inondé suite à la construction d'un barrage. J'ai filmé, en l'espace d'un an, je crois, tout le processus de destruction du village. La dernière prise de vue montrait juste la surface de l'eau. J'ai ensuite tourné le film sur la maternité. Là aussi, le tournage a duré un an. Du coup, j'ai réalisé que le temps était un phénomène intéressant qui se prêtait très bien au cinéma parce qu'il permettait de capter l'instant présent. En enchaînant ces « ici » et « maintenant », on peut montrer une évolution. Mais ce n'est qu'environ 6 ans après avoir commencé à tourner la vie de la famille Kettner, lorsque j'ai commencé à filmer 6 autres familles dans le cadre du projet « Histoire de couple », que je me suis mise à travailler systématiquement et consciemment de cette façon-là.
Rappelons que dans le cycle de documentaire « Histoire de couple », qui est donc le premier projet de longue durée de Helena Třeštíková, la réalisatrice a filmé les débuts de la vie conjugale de 6 couples en 1980 pour frapper à nouveau à leur porte en 2000. Comment faire face dans ce type de travail au risque qu'au fil des années, des événements importants survenus dans la vie des personnages échappent aux réalisateurs?
Effectivement, cela me tracasse en permanence. Un autre enjeu de ce type de travail, c'est que vous commencez quelque chose sans jamais savoir sur quoi cela peut aboutir. Les débuts sont à chaque fois très difficiles. Je commence de manière plus ou moins instinctive, mais sans avoir aucune certitude sur le résultat. Après chaque journée de tournage, je fais une sorte de script, je note, je retranscris ce qui a été filmé. Je peux alors revenir à n'importe quel moment sur le matériel que je conserve aussi sur DVD. Avant, c'était des cassettes vidéo. Je consulte ce matériel dès que j'ai l'impression qu'une étape a été franchie. En regardant ce que j'ai tourné, je réfléchis sur des situations que j'aimerais filmer prochainement. Mais le montage du film ne commence que quand on aura tout filmé. Cela ne se fait jamais simultanément.
Helena Třeštíková continue à filmer les destins d'une 20aine de personnages de ses précédents films, destins qui ne la laissent pas indifférente. Elle apporte un soutien psychologique et matériel à René qui est à nouveau incarcéré et à Katka qui a replongé dans la drogue. En plus de cela, en 2012, Helena Třeštíková devrait achever, après 16 ans de tournage, un nouveau documentaire sur le musicien et activiste Rom Vojtalavečka.
Et puis rappelons encore que le film de Helena Třeštíková, intitulé donc Le Cosmos Privé, sort en salle en République tchèque le 26 janvier prochain. Le film sera également présenté au prochain Festival international de Karlovy Vary. Et c'est avec cette information que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci donc encore de votre attention. Merci également de votre fidélité. Et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy.